Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Aujourd'hui, Jean-Claude Daluin. Bonjour, monsieur Daluin.
Oui, bonjour.
Donc, on va présenter aujourd'hui le Festival des sciences métisses. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des sciences métisses déjà, on me l'apprenait.
Ah, alors, c'est un nom qu'on utilise parce que les sciences s'interpénètrent. Elles s'éclairent les unes les autres, tout au moins les disciplines scientifiques s'éclairent les unes les autres. Et il y a d'une part, elle s'éclaire entre domaines scientifiques et en plus, les participants à la recherche sont aussi de différentes origines, c'est-à-dire il y a des professionnels de la recherche et il y a des non-professionnels de la recherche et il peut y avoir une interaction entre les deux. Par exemple, c'est le domaine le plus évident où on a ce genre de situation, c'est en astronomie où il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui travaillent y compris qui apportent des choses aux professionnels, et les professionnels apportent des choses. Et il y avait aussi, par exemple, il y a eu une grande influence, par exemple, des associations de malades, en particulier les associations pour le sida, contre le sida, qui ont beaucoup travaillé avec les laboratoires de recherche en épidémiologie, et puis aussi dans le développement même des trithérapies.
Mmh. Donc c'est vrai que le grand public est parfois sollicité. J'allais dire, quelque part, le scientifique dans sa tour d'ivoire, c'est fini.
Il y a peut-être certains qui s'estiment être dans une tour d'ivoire, mais le scientifique ne l'était déjà pas dans le passé. Parce qu'il était jusqu'au 19e siècle, il était en même temps, il couvrait un grand nombre de disciplines scientifiques, il était en même temps philosophe, quelquefois il avait même un rôle politique, évident pour certains. Alors il y a peut-être une professionnalisation de certains domaines, en particulier pour des aspects plus techniques de la démarche scientifique, Et le scientifique, s'il est spécialiste dans un domaine au niveau des approches techniques et technologiques, pour d'autres domaines scientifiques, il ressemble de plus en plus au commun des mortels.
Et puis il faut noter que beaucoup d'équipes sont pluridisciplinaires dans les laboratoires de recherche.
Oui, de plus en plus. Et en plus, souvent, un domaine va éclairer un autre domaine. Par exemple, s'il y a beaucoup d'applications actuelles, comme par exemple en imagerie médicale, qui sont basées sur des théories scientifiques qui datent du début du XXe, par exemple la piézoélectricité pour l'échographie, et les transformées de Fourier dans ce domaine-là ont joué un grand rôle. Bon, certes, elles sont utilisables maintenant parce qu'il y a aussi un développement de l'outil informatique qui permet une rapidité de calcul qui était difficilement accessible, disons, jusque dans les 20 dernières, à partir des 20 dernières années peut-être.
Alors justement, pour ce grand public associé à ces recherches, est-ce qu'il y a des moments de rencontre, de sensibilisation sur des problématiques bien particulières qui sont un peu dans l'air du temps, histoire de motiver les personnes?
Alors, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'associations. Le plus développé, sans doute, est les associations de malades, que ce soit SIDA ou cancer, avec les gens qui travaillent dessus. La Ligue par exemple, contre le cancer joue un grand rôle dans ce genre de choses. Idem pour le SIDA. En astronomie, ça existe aussi. Alors, dans le thème qui nous intéresse cette année pour ce festival Sciences Métis, qui est sur les énergies, il y a là de grandes discussions sur le panel d'énergie qu'il faut développer. Mais là, il n'y a pas, pour l'instant, de vraies rencontres, de vraies discussions entre le grand public, les spécialistes et les décideurs.
Alors c'est vrai que ce domaine de l'énergie, et notamment des énergies renouvelables, c'est un problème forcément qui intéresse toute la planète et la recherche, puisqu'elle a, j'allais dire, une obligation de résultat maintenant.
Alors, jusqu'au milieu du 19e, en gros, on n'utilisait que des énergies renouvelables, à peu près. Il y avait le bois, bon, sans parler de l'énergie musculaire humaine qui sert depuis des temps immémoriaux.
Il faut quand même l'alimenter. Hein.
Oui, oui. Ah, oui, c'est vrai. C'est le développement de la machine à vapeur, entre autres, et des hauts fourneaux qui a au milieu du 19e, a entraîné un développement des énergies fossiles, que ce soit d'abord le charbon, puis après le pétrole. Le nucléaire est beaucoup plus récent. L'un des enjeux majeurs actuellement, c'est l'utilisation des énergies fossiles et son influence sur le réchauffement climatique, qui est sans doute un enjeu prioritaire. Bon, certes, les énergies fossiles vont diminuer, tout au moins en particulier pour le pétrole. Le charbon, il y a une marge de manœuvre plus longue, mais il faut quand même avoir en tête que les énergies fossiles, les énergies renouvelables, posent aussi d'autres problèmes techniques, même y compris pour l'environnement.
Est-ce que ça veut dire qu'on a mangé notre pain blanc dans nos régions, dans nos pays industriels, j'allais dire développés entre guillemets?
Manger notre pain blanc. On a sans doute utilisé les choses les plus faciles directement. C'est souvent dans le mode de fonctionnement du monde capitaliste. C'est quand même souvent ce qui coûte le moins cher pour augmenter les profits qui est utilisé en premier. Mais il faut quand même avoir conscience que le flux d'énergie solaire que nous recevons couvre à peu près 8000 fois nos besoins en énergie au stade actuel de l'utilisation de l'énergie. Donc il y a un flux d'énergie solaire qui est largement suffisant. Bon, il y a le problème de le convertir, cette énergie solaire, en énergie utilisable par l'homme.
Alors si on parle de cette énergie solaire, j'imagine que le soleil ne peut pas être à l'origine du réchauffement de la planète dans ce cadre.
Je crois que le soleil est indispensable à la vie. Sans effet de serre du tout, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mm-hmm. Puisqu'il y aurait un tel changement entre le jour et la nuit sur Terre qu'il n'y aurait pas de vie possible, puisqu'on passerait à des températures importantes le jour et il y a un choc thermique la nuit très important. Donc l'effet de serre est indispensable. Le problème actuel, c'est que principalement le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente cet effet de serre qui peut entraîner un réchauffement avec une dérégulation du climat. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de l'atmosphère de la Terre, avant l'apparition de la vie, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il n'y avait que de l'azote et du CO2 et de la vapeur d'eau. D'autres gaz. Donc il y a eu un moment, au moment des premières photosynthèses, il y a eu formation d'oxygène à partir du CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère. Convertir, l'énergie solaire est indispensable Et il ne faut pas non plus que le réchauffement climatique soit trop important. Donc il faut trouver des moyens de convertir cette énergie solaire en une énergie utilisable par l'homme. Et le moyen le plus facile pour utiliser de l'énergie pour l'homme reste sans doute de l'électricité, avec tous les problèmes de stockage.
Mais ce que je voulais dire, c'est que l'énergie solaire arrive naturellement sur Terre, comme rien ne se perd, rien ne se crée, qu'on l'utilise d'une manière ou d'une autre, elle reste dans le capital énergie sans en rajouter, non ?
Mais on reçoit un flux d'énergie du soleil, mais il y a une partie de cette énergie réfléchie. Mmh. Tout n'est pas absorbé par la Terre et quand les parties de la Terre sont pas exposées au soleil, il y a une partie qui est réfléchie, hein, quand même en permanence, parce que par rapport à la température du milieu extra-atmosphère terrestre, on est peut-être pas au minimum de l'espace interstellaire, mais on est pas loin du 3-4 degrés Kelvin, donc à moins 270 degrés quand même. Donc donc il y a quand même le corps, la Terre en tant que telle se refroidit. Donc.
Oui, ça ne va pas être facile de lui mettre son manteau pour l'hiver.
Non, le manteau, c'est un taux de, pour schématiser, un taux de CO2 dans l'atmosphère raisonnable. Mmh. C'est-à-dire de l'ordre peut-être entre 250 et 300 particules par million dans l'air.
D'accord. Donc, ce festival des sciences métisses, c'est physiquement, ça se tient où, c'est comment ?
Alors, ça se tient à Lille, à la salle, c'est le deuxième du festival. Il y en avait eu un l'année dernière sur la biodiversité, donc celui-ci sur les énergies renouvelables. Il se tient donc à la salle Le Gymnase, place Sébastopol, à Lille.
D'accord.
C'est un salon du livre, quand même, de vulgarisation scientifique. Le salon lui-même, il est sur tous les thèmes de la vulgarisation scientifique. Mais les ateliers et les conférences sont sur le thème de l'année, donc sur les énergies. Il y a des ateliers pour découvrir les techniques sur les énergies renouvelables et 4 conférences sur ce thème. 2 sur, disons, les aspects plus techniques. Une sur le réchauffement climatique et la quatrième sur comment peut-on faire mieux avec moins d'énergie.
Alors Jean-Claude Dalluin, on va peut-être présenter l'ASTS, Nord-Pas-de-Calais, si vous le voulez bien.
Alors l'ASTS, Association Sciences, Technologies et Société, au niveau national, c'est une association qui est née au moment des assises de la recherche en 82-83, quand Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à peu près à cette époque-là que cette association est née, pour faire le lien entre les laboratoires et le grand public sur les mêmes thèmes. Celle du Nord-Pas-de-Calais est beaucoup plus récente. Elle est née il y a 2 ans, avec comme objectif principal l'organisation de ce festival. Donc sur la biodiversité l'année dernière, sur les énergies renouvelables cette année. Et l'année prochaine, normalement, ça devrait être sur l'eau.
Oui, c'est ça, sur l'eau, en 2013.
Oui.
Est-ce qu'il existe en parallèle, dans d'autres villes de France, des manifestations similaires ?
Alors, en 2011, il y a eu 3 manifestations similaires, une à Brest et une en région PACA, à Fort-Calquier. L'idée, c'était que ça se développe. Nos deux partenaires régionaux n'ont pas réussi à réaliser cette année un deuxième festival. Donc, se proposent d'en refaire un l'année prochaine sur l'eau. Mais cette année, on est malheureusement les seuls. Parce que l'idée, c'était progressivement de réussir à faire ce festival dans une 10-15 villes de France et donner un caractère national à l'événement et de le faire à peu près à cette période-ci de l'année, entre les vacances dites d'hiver et celles de printemps.
Donc on va dire que cette année, l'événement, il est forcément nationalement à Lille.
Il est nationalement ch'ti cette année.
Oui. C'est ça. Donc du 29 au 31 mars, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Hein,
au théâtre, enfin
non.
Au théâtre,
non. Non, à la salle,
la
le salle,
gymnase. C'est une salle. Le gymnase, oui. Donc c'est à côté du théâtre Sébastopol. Quand vous regardez le théâtre Sébastopol, c'est sur la gauche.
Exactement, hein. Au début de la rue des Postes. Non
oui. Ouais. Combien vous attendez de personnes, a priori?
Il y a des groupes scolaires qui se sont inscrits. Et le grand public, je sais pas, c'est difficile. On espère comme une fréquentation entre 500 et 1000 personnes en tout.
Pour les ateliers, il faut s'inscrire ?
Pour les ateliers, non. Pour les ateliers, il y a une inscription sur place en individuel. C'est une réservation au préalable pour des classes. Pour
D'accord.
pouvoir un peu organiser le...
Est-ce qu'il y a un site internet où on retrouve des éléments de ce festival?
On peut retrouver tout le programme sur le site du festival qui est www.science-métis, les deux au pluriel, .org.
Voilà, bien, je pense qu'on a à peu près présenté cette thématique de cette année. À l'issue de ce festival, est-ce qu'il y aura... un compte rendu ou une action qui sera entreprise par rapport à tout ce qui aura émergé d'idées?
Alors, en parallèle à l'organisation du festival, il y a un groupe de travail qui prépare un catalogue critique de livres de vulgarisation sur le thème de l'année, avec plusieurs rubriques, que ce soit pour les très jeunes, pour les ados et pour les adultes, avec une partie fiction même pour les jeunes. Une analyse sur à peu près 70-80 ouvrages de vulgarisation sur le thème des énergies. L'année dernière, il y en a eu un comme sur la biodiversité. Et on devrait le faire, ce catalogue critique, sur le thème de l'année, chaque année.
Quand on dit vulgarisation, évidemment, c'est quelque chose d'important, notamment dans le cadre de votre projet. Est-ce que quand on vulgarise en écrivant des ouvrages... très simplifié, il n'y a pas le risque de détourner un petit peu le contenu d'une manière globale et plutôt s'attacher à des choses qui font écho certainement auprès du public, mais détournent un petit peu de l'importance du sujet.
C'est très difficile de faire de la vulgarisation qui apporte quelque chose au public sans déformer les questions en discussion. Mais la formation de la culture scientifique est quelque chose qui est quelque chose de très long comme travail. On peut pas, c'est pas en participant une demi-journée à un atelier qu'on va avoir une culture scientifique. La culture scientifique, dans ce cas-là, c'est plus apprendre au public à réfléchir, à se poser des questions et à essayer de trouver des réponses aux questions qu'elles se posent avec une démarche scientifique, hein, de réflexion, de voir les hypothèses, de voir comment les réponses ont été données, qui les donne accessoirement, parce que ça peut avoir de l'importance, qui donne la réponse dans les énergies, que ce soit un groupe écologique très anti-nucléaire ou à REVA, les réponses ne sont pas forcément exactement les mêmes.
Et
donc les scientifiques doivent poser, eux, les questions qui sont en rapport. Parce que, par exemple, le charbon a des effets, par exemple, très toxique, que ce soit directement pour les travailleurs ou même pour la pollution atmosphérique.
Bon, j'ai eu la chance d'avoir vécu longtemps dans cette région avec du charbon un peu partout sans encore en être mort. Mais oui. Bon, je fais partie des chanceux peut-être.
Bon, les moins chanceux, c'est sans doute ceux qui étaient au fond de la mine.
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas donné cette tâche ingrate et d'exploitation charbonnière. Mmh. Hein. Alors, est-ce que les documentalistes, par exemple, les bibliothécaires, etc., auraient intérêt à venir vous rencontrer pour justement faire des choix dans tout ce qui peut exister comme publication d'ouvrages qui pourraient être des ouvrages à la fois de vulgarisation, mais quand même de référence?
à les documenter. Et, non, il y a une partie du travail sur la réalisation du catalogue critique est fait en partenariat avec le service de documentation du Forum départemental des sciences, donc là à côté, à Villeneuve, et l'association essaye de trouver des scientifiques compétents dans le domaine pour pouvoir analyser les aspects scientifiques des ouvrages, les documentalistes se posant les questions d'accessibilité pour tel ou tel public. Et, mais je crois que ceux qui travaillent dans les bibliothèques de lycée, pour les bibliothécaires de lycée ou de collège, ou même pour les médiathèques, ce serait bien qu'ils puissent se poser ce genre de questions sur la vulgarisation.
Donc le rendez-vous est donné, c'est au gymnase, donc, place Sébastopol. On va rappeler les dates, comment on s'inscrit?
Alors, c'est entrée libre. C'est de 10h le matin à 17h30 pour les ateliers et les autres stands. Les conférences démarrent à 17h30 ou 18h suivant les jours, mais le programme détaillé est sur le site du festival jusqu'au samedi soir.
Voilà, donc ça démarre demain et ça finit samedi. Oui. Bien, merci Monsieur Jean-Claude Dalluin de nous avoir présenté ce sujet. Peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine pour parler de l'eau.
J'espère, oui, de l'eau. Et l'eau, on n'a pas encore défini les thèmes que nous allons aborder, parce que l'eau, il y a le problème de l'eau, comment l'eau est arrivée, quelle est l'origine de l'eau sur la Terre. Ce solvant très particulier qu'est l'eau, et son rôle indispensable pour la vie, entre autres, et puis tous les problèmes de ressources en eau, du partage de l'eau, des problèmes de géopolitique liés à l'eau.
Voilà, en attendant de se plonger dans cette eau, eh bien, je propose les énergies renouvelables pour tous, c'est le thème donc de cette année. Merci beaucoup, très bonne journée, à demain alors.
À demain, merci. Thank you.